Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 22 novembre 2022. Dans un peu plus de 30 heures, les Américains vont partir en week-end prolongé pour retrouver leur famille aux quatre coins du pays. Les aéroports vont être bondés, les dindes vont vivre leurs dernières heures et le Covid n'existe plus. Heureusement, enfin... Sauf en Chine où il fout encore une fois un joyeux bordel et fait flipper tout le monde, surtout les économistes, les marchands de pétrole et les vendeurs de voitures électriques. Mais une chose est certaine, dans les prochaines heures, les traders de Wall Street auront bien d'autres soucis que le prix de Tesla ou l'éventuelle faillite de Coinbase. Dans quelques heures, on devra choisir quel pull moche porter et ça, c'est pas simple. Mais comme dès demain, la couleur du pull moche sera plus importante que tout le reste, les experts de Wall Street se sont tous précipités pour exprimer leurs sentiments sur l'avenir des marchés. Fini l'incertitude, fini le doute sur l'avenir des bourses mondiales. Dorénavant, tout le monde sait exactement ce qui va se passer. Je vous jure, ce matin, je me suis tapé une dizaine d'articles différents de différents stratèges ou autres hedge fund managers et ils sont tous constants dans leurs déclarations. Ils savent. En tous les cas, ils savent mieux que moi, mieux que vous, et le fait d'avoir été faux pendant les 12 derniers mois ne les a pas fait douter le moins du monde. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de ce qu'ils pensent, parce que quand on fait le tour, à la fin, on a l'impression qu'on n'est pas plus avancé qu'au début, tellement il y a à boire et à manger dans leurs déclarations prévisionnelles pour demain et pour 2023. Une chose est pourtant commune à tous, le marché devrait monter, peut-être encore un peu, mais ensuite, il devrait baisser pour aller tester à nouveau les plus bas de cette année, et puis ensuite, l'année prochaine, ça devrait rebondir. Ils sont tous plus ou moins convaincus que les taux élevés sont un problème pour le marché des actions. Alors, je ne vais pas dire du mal comme d'habitude, mais j'ai surtout l'impression que l'on est tout simplement en train de balancer des idées dans tous les sens dans les médias, de balancer des idées avant de se casser en week-end prolongé. Et si on est bien organisé dans son discours, on devrait pouvoir dire que ça pourrait monter ou ça pourrait descendre, mais que ça pourrait aussi monter et descendre, tout en espérant que dans deux semaines, on aura au moins eu un bout de bon et que l'on pourra dire « je vous l'avais dit ». Mis à part ça, il n'y en a qu'un qui continue à persister sur le fait que la seule chose que l'on peut faire, c'est baisser, c'est Rubini. En même temps, on ne change pas une équipe qui ne gagne pas. Et pour le reste, alors que tous les experts étaient en train de poser leurs cartes sur la table avant d'aller manger la dinde, les marchés ont commencé à s'inquiéter pour la Chine. La Chine, c'est un peu comme un rhume. On sait que chaque hiver, on va y avoir droit deux ou trois fois et c'est comme ça. Quoique depuis l'avènement du Covid, il n'y a plus de rhume, il n'y a plus que des tests positifs. Mais pour le moment, on sait que tous les 10 jours, on tourne la veste sur la Chine et sur le sujet du Covid. Du coup, on sait que selon une source proche du dossier mais qui préfère garder l'anonymat, que l'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que les mesures de confinement pourraient voler en éclats dans les semaines à venir et que ça pourrait être poulet à l'aigre doux pour tout le monde et pour fêter ça. Et puis, 5 jours après, on apprend que le parti reconfine tout le monde, y compris les centres d'affaires de Shanghai. Autant dire que ça souffle le chaud et le froid dans tous les sens. Du coup, nous, les experts en finance mondiale, nous sommes obligés de changer de position à peu près toutes les 5 minutes en fonction du sens du vent. Il y a 2 semaines, on était prêt à vendre les bijoux de la grand-mère et la grand-mère elle-même pour investir en bourse parce que la Chine allait déconfiner. Et hier, on était en pleine crise d'apoplexie en train de souffler dans un sac en papier sous prétexte qu'en fait, la Chine, elle allait pas rouvrir tout de suite. Et quand la Chine ne va pas ouvrir de suite, c'est l'éternel effet boule de neige qui recommence. Et oui, à chaque fois que l'on perd espoir sur la Chine, c'est un peu comme quand tu regardes une série sur Netflix, que tu finis la saison 4 avec un suspense à te déclencher un AVC, et que tu apprends qu'en fait la saison 5 elle sortira en 2025 quand le S&P 500 sera à 5000 et qu'encore, c'est même pas sûr qu'il y aura une saison 5. À ce moment-là, tu rentres en dépression, c'est Xanax en injection, Lexomil en tartine, Prozac en suppositoire, et ben la Chine qui reconfine, c'est pareil. On commence à flipper sur le pétrole parce que oui, aussi fou que cela puisse paraître, quand la Chine s'enferme chez elle pour manger du pangolin en McNuggets, ils arrêtent de consommer du pétrole. Et quand ils annoncent qu'ils reconfinent et qu'ils vont arrêter de consommer du pétrole et qu'en plus, l'OPEP tourne en rond dans sa chambre en hésitant à s'autoriser à produire un peu plus de barils pour pouvoir payer les arbitres de la Coupe du Monde, forcément, ça n'aide pas à trouver joie et bonheur dans les marchés financiers. Heureusement que jeudi, c'est dindon marron avec beaucoup de sauce et 3 kilos de pommes de terre à l'huile par personne, ça va nous détendre. Et puis, quand la Chine se renferme, on trouve toutes les excuses possibles et imaginables pour dire que ça va aller mal et que sans la Chine, nous ne sommes rien et que tout est dépeuplé. Plus personne n'achète de tech américaine si les Chinois sont pas là, plus personne ne va acheter de voiture électrique si les Chinois sont pas là. Et c'était même un des gros thèmes de la journée, ça et le salaire à tiroir de Bob Iger qui revient chez Disney. Hier, on s'est donc inquiété pour les voitures, mais surtout les voitures électriques qui ne polluent pas et qui sauvent la planète chaque fois qu'on la sort. D'ailleurs, il paraît que dorénavant, sur les modèles Tesla de luxe, les modèles vraiment écologiques, tous les 100 km, la voiture s'arrêtera et il faudra planter un arbre pour qu'elle redémarre. Bref, hier, on s'est dit que si les Chinois restaient enfermés chez eux, ils n'avaient pas vraiment besoin d'acheter des voitures, et encore moins des voitures électriques. Du coup, tout le secteur s'est fait démonter, pendant que Tesla rappelait 300 000 caisses pour un problème technique et qu'un analyste expliquait pourquoi le titre devait aller à 100 $. Tesla terminait au plus bas depuis 2 ans, mais heureusement, afin de compenser l'empreinte carbone de la baisse des voitures électriques, tout le secteur pétrolier s'est fait allumer parce que le pétrole se faisait laminer et toucher son plus bas depuis 1 an. On notera néanmoins le reversal spectaculaire du baril qui nous offre une configuration technique parfaite pour raconter une histoire bullish sur le baril, mais on la racontera après la dinde. Ce matin, l'Asie remonte légèrement, c'est pas l'euphorie, mais il semblerait qu'en fait l'OPEP ne va finalement pas augmenter sa production pour payer les arbitres et qu'ils vont rester au même niveau qu'avant. C'est assez fou d'ailleurs. Les gars doivent se faire des swings en trading, c'est sur le baril, ça doit être inimaginable. Lundi matin, tu annonces que éventuellement peut-être tu vas augmenter ta production. Le baril se fait décalquer parce que les traders européens sautent au bord du burn-out, et quand les gars se sont bien mis short et que toi tu as eu le temps d'acheter des futurs, des calls out of the money et 2-3 barils pour mettre au fond du jardin, tu reviens et tu dis non, je déconne les gars, en fait on va faire comme d'habitude, on laisse la production pareil, my bad les gars, on s'est mal compris, allez, bonne journée. Ensuite tu revends tes futurs, tes options et tes barils 5 $ plus haut, et 20 minutes plus tard tu peux payer les salaires et les bonus des arbitres pour les 8 prochaines Coupes du Monde et les Jeux Olympiques d'hiver à Dubaï. Mais alors, tout le monde trouve ça parfaitement normal. Actuellement, le Japon est en hausse de 0,7%, la Chine de 0,75% et Hong Kong est en baisse de 0,4%. Le pétrole est à 80 $ après avoir touché les 75,15 hier et l'or est à 1745. Le Bitcoin est actuellement sous les 16 000, à 15 800 pour être précis. Et selon certains techniciens, c'est la porte ouverte à un objectif à 6 500. Il semblerait que le coût de minage se situerait à 15 000 $ en ce moment, ce qui fait que sous les 15 000, ça sera beaucoup moins drôle. Et puis au passage, il semblerait que Genesis serait sur le point de nous faire une FTX également, sans compter que tout le monde est en train de vomir sur Coinbase. Coinbase qui vient de nous faire un nouveau record à la baisse en frisant les 40 $. Je rappelle pour mémoire que l'action est arrivée en IPO à 250 $ en avril 2021 et qu'à 40, ça fait une perte de 89% pour ceux qui ont acheté sur le premier prix payé, soit 381 $. Mais bon, comme ça devait aller à 450 $, ça va. C'est un peu comme l'IPO de Grindr qui a pris 200% pour son premier jour de trading. Ça sent la performance de malade dans les 8 prochains mois. Dans les nouvelles du jour, apparemment, le top management n'est pas du tout content de voir revenir Bob Iger chez Disney, même si le titre a pris plus de 6% sur la news hier. Ça ne semble pas être la bonne nouvelle pour les employés de Disney. Elon Musk a suspendu indéfiniment le principe de la pastille bleue avec 8 $ sur Twitter. Visiblement, les moyens de vérification ne sont pas assez pointus. C'est à Eli Lilly qu'il faut dire ça depuis que quelqu'un a acheté un compte Twitter vérifié et qu'il a annoncé que l'insuline était dorénavant gratuite. Je sais pas, mais j'ai l'impression que Musk a peut-être fait le coup d'éclat de trop en rachetant ce truc. Il y a aussi la société de biotechnologie Imago Bioscience qui se fait racheter 100% plus haut par Merck, et Zoom qui a publié des chiffres meilleurs que les attentes et qui a augmenté ses prévisions de profit pour 2022, ce qui pourrait d'ailleurs s'apparenter à une bonne nouvelle. Sauf qu'ils ont aussi annoncé que le Q4 ne serait pas facile. Du coup, le titre perdait 7% after close. Ça résume assez bien le concept d'insatisfaction perpétuelle dont nous sommes parfois victimes dans la finance. Et puis, on notera aussi que le gars qui dirige Hong Kong et qui est revenu de Thaïlande positif au Covid venait juste de rencontrer Xi Jinping. Alors je pense que ça serait drôle si le leader de la démocratie chinoise se retrouvait positif au Covid. Et puis on signera quand même avec les commentaires de Bill Ackman, la star hedge fund manager qui est correct, qui est juste une année sur deux, qui estime que les multiples hausses de taux ne suffiront pas pour faire baisser l'inflation et qu'il va falloir apprendre à vivre avec une inflation élevée. Et pour terminer, à propos d'inflation, on retiendra que Loretta Mester, la patronne de la Fed de Cleveland, aimerait voir plus de résultats sur l'inflation avant de parler de changement de politique monétaire. Alors vous, je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'on risque encore une fois d'être déçu lors du prochain meeting de la Fed, à moins que l'emploi s'effondre et que le CPI passe directement à 5%. Côté chiffres du jour, c'est très maigre. Il y aura le Redbook aux USA et c'est à peu près tout. Côté société, nous aurons les chiffres de Best Buy, Medtronic, Abercrombie et Baidu. Et ce soir, il y aura aussi Hewlett-Packard. Pour le moment, les futurs sont en train de ne rien faire et de nous donner un avant-goût du reste des séances de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain pour parler Coupe du Monde de football, ping-pong et Covid. À demain, si vous le voulez bien.